savoir sûr. Bonjour, je suis Marie Guerrier. Bienvenue dans ce podcast de la rédaction d'RTL, Tout savoir sûr. Tout savoir sur ces petites et moyennes entreprises françaises dopées au JO. Des TPE de moins de 20 salariés, des PME de moins de 250 salariés qui ont décroché des contrats et contribué à la construction des infrastructures Paris 2024. 790 millions d'euros de contrats pour participer à la construction des stades, des complexes sportifs, des piscines, du village des athlètes. Plus de 1300 petites et moyennes entreprises ont travaillé d'ailleurs sur le chantier du village. Et en tout, plus de 2500 sur l'ensemble des ouvrages olympiques. Aux côtés des grands groupes français de BTP, Vinci, Bouygues, Eiffage, il y avait de la place pour des plus petits qui ont apporté leur pierre à l'édifice. La Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, a remis les clés du village des athlètes au comité d'organisation le 29 février 2024 en présence d'Emmanuel Macron.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous allez bien? Sous la pluie un peu, mais bon, c'est un beau jour quand même. C'est un très grand jour. C'est une étape essentielle de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans ce moment symbolique où le directeur général de la Solideo a remis les clés du village olympique à Tony Estanguet, eh bien, c'est la démonstration que nous sommes au rendez-vous des engagements qui avaient été pris. D'abord, c'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs. Ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. Et malgré le Covid, malgré les 2 ans d'inflation, malgré la guerre en Ukraine, les équipes de la Solideo, l'ensemble des entreprises en lien avec tous les élus locaux, les aménageurs, les architectes, etc., ont fait un travail extraordinaire qui fait que c'est le plus grand projet d'aménagement, de création de logements, de création de bureaux de France. Et il a été fait dans un temps absolument record. C'est un chantier, il y a eu jusqu'à 4000 personnes qui y ont travaillé par jour, plus de 40 000 au total, des jeunes et des moins jeunes. Vous avez eu de l'insertion et beaucoup d'emplois créés justement dans le département.
Ce chantier, c'est aussi une vitrine pour nos entreprises françaises, les petites entreprises.
Oui, vous avez raison de le dire, beaucoup de PME et de TPE d'ailleurs de la France entière, parce que, je le disais, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été sur le territoire, mais vous avez des entreprises d'Occitanie, de la région lyonnaise, d'Anjou, de Bretagne. C'est une expérience pour ces entreprises. J'ai une pensée pour l'ensemble des compagnons, des femmes et des hommes qui ont donné des années de leur vie sur ce site. Les aménageurs, les architectes, tous, et on voit que c'est beau. C'est beau.
C'est beau, dit le président de la République, et pour parler de cette dynamique économique olympique, j'accueille dans ce podcast RTL Julie Fournier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet à la Solideo qui a donc veillé à la réalisation et à la livraison de 70 ouvrages et opérations d'aménagement pour ces Jeux de Paris 2024. À mes côtés également, Mathilde Piquet, journaliste au service économie sociale transition écologique de RTL. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et puis en ligne avec nous, depuis l'Alsace, Franck Matisse, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes le patron de l'entreprise Matisse Construction Bois. Alors on vous doit notamment l'incroyable charpente concave du centre aquatique construit à Saint-Denis, mais aussi une partie de la salle Adidas Arena de la Porte de la Chapelle, le grand palais éphémère sur le Champ de Mars. Racontez-nous, comment avez-vous décroché tous ces contrats?
Alors tous ces contrats sont des contrats qui ont été préparés très en amont des JO, évidemment, on peut l'imaginer. Donc on a eu des contacts en amont avec la Solideo, parce qu'il y avait beaucoup de sujets d'innovation, donc ça devait se préparer longtemps à l'avance. On a eu des contacts avec les majors du BTP, avec des architectes, et donc on a fait un travail préparatoire avant évidemment de se lancer dans les constructions, dans les études, etc.
Ça fait combien d'années en fait que vous travaillez sur ces JO de Paris 2024?
Je dirais que les Alors les projets se sont lancés à des périodes différentes, hein, selon les besoins. Le siège du Comité olympique c'était plus tôt, le Grand Palais éphémère aussi. Donc selon les projets, ça s'est étalé sur plusieurs années. Moi je dirais que ça doit faire bien 4 ou 5 ans qu'on travaille sur ces projets, quoi.
Vous êtes à la tête d'une entreprise familiale. Vous avez combien de salariés et combien vous en avez embauché pour ce projet des JO, ces projets des JO?
On est en moyenne à un peu plus de 200 personnes. On a dû embaucher entre 10 et 15% de personnel pour faire ça. Puis après, les gens sont restés puisqu'on a décroché d'autres marchés, etc. Mais donc, oui, on peut dire que ça nous a permis d'embaucher 10 à 15% de en plus, quoi. On a eu une progression de chiffre d'affaires, effectivement. En moyenne, c'est supérieur à ce qu'on avait avant.
Julie Fournier, à la Solideo, vous aviez une charte emploi pour réserver des chantiers à des petites et moyennes entreprises. Comment vous avez procédé pour contacter les entreprises, pour qu'elles puissent avoir accès au marché? Comment ça s'est passé?
Alors, effectivement, en fait, dès 2018, voilà, la Solideo et tous les partenaires se sont engagés sur le sujet des retombées économiques via cette charte pour l'emploi et le développement territorial. Et en fait, on avait inscrit un objectif dans cette charte qui était de réserver 25% des montants des marchés à des TPE, des PME et des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, on a utilisé plein d'outils pour pouvoir atteindre cet objectif qui est aujourd'hui largement dépassé. On a utilisé les outils de la commande publique, essayer de faire des marchés qui soient à la taille de ces entreprises, puisque c'est ça qui est important pour elles. On a aussi beaucoup, beaucoup travaillé avec les réseaux économiques qui existaient, qui ont monté en fait 2 plateformes spécifiquement, qui s'appellent Entreprise 2024 et ESS 2024. Et ces plateformes, elles ont vocation à faire passer toutes ces opportunités à ces petites structures, à les former aussi sur la réponse au marché public. Et puis, nous-mêmes aussi, Solideo, on a essayé de mettre en réseau ces entreprises via des événements meet-up. Donc en fait, il y en a eu 4.
Meet-up, c'est-à-dire qu'il fallait se rencontrer, quoi.
Exactement.
Les faire se rencontrer.
Avec des petits rendez-vous face à face en B2B, comme on dit. Et donc voilà, il y a plus de 1500 entreprises en fait qui sont venues à ces rendez-vous, qui ont pu rencontrer des grandes entreprises pour avoir aussi des opportunités via des coopérations avec des entreprises comme ça ou avec des grands donneurs d'ordre. Donc voilà, pour nous, ça a vraiment dynamisé le partenariat avec cette entreprise.
Franck Mathis, on est à l'affût quand on est chef d'entreprise de ce genre de contrat, quand on voit les JO arriver en France?
Ah ben oui, c'est pour tous les grands projets, c'est pareil. On se dit qu'il y a forcément des choses sur lesquelles on pourra s'imposer. Et donc, effectivement, on a surveillé ça très en amont, on a noué des contacts. Et puis en fait, c'est un gros travail de préparation parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup d'innovations sur les JO de organisationnel, technique, etc. Donc pour faire émerger des nouvelles techniques de construction, et en particulier pour la construction bois, donc ça demandait quand même beaucoup de préparation en amont, de travaux de R&D, etc. qui ont été finalisés. Donc on est à l'affût et très vite, il faut mesurer la capacité de l'entreprise à s'adapter à des demandes qui seront par définition exceptionnelles, quoi. Exceptionnelles sur la technique, sur les délais, sur l'organisation, sur la logistique. Elle est capitale sur des chantiers de ce type-là, parce que, comme on me l'avait fait comprendre, il n'y a aucune variable dans les Jeux Olympiques, hein. Donc, c'est un gros engagement et il faut être conscient de ce qu'on fait en se lançant dans une opération de ce type-là.
Et quels étaient les critères, Julie Fournier, pour ensuite que les marchés soient attribués?
Eh ben, on a inscrit, en fait, avec tous les maîtres d'ouvrage et dans tous les gros contrats d'entreprise, cette clause des 25%, ce qui a permis, voilà, à des grandes entreprises de rencontrer des petites de répondre à plusieurs pour choper des grands marchés, etc. Donc, ça a été un vrai succès.
Vous nous redonnez les chiffres du nombre d'entreprises qui ont été embarquées dans cette aventure?
Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Il y a 3153 entreprises qui ont participé aux ouvrages olympiques, dont 2505 TPE-PME, donc c'est beaucoup.
Ils viennent de partout en France, c'est ce que disait le président de la République, il a évoqué quelques régions, mais c'est de partout en fait.
Effectivement, on a 85 départements représentés dans les entreprises qui travaillent sur les ouvrages olympiques. Donc on a beaucoup d'exemples de toutes les régions. Je pense à une entreprise qui s'appelle Circouleur, qui fabrique de la peinture recyclée, qui est en Gironde. Je pense à une autre entreprise qui se situe dans le Rhône et qui est spécialisée dans la signalétique multisensorielle, donc qui s'adresse notamment à des personnes en situation de handicap. Donc cette entreprise s'appelle Okinéa et elle a gagné un marché d'innovation pour nous. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples par-delà la France.
Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y avait cet objectif à l'origine de 25% de marché pour les PME, les structures de l'économie sociale et solidaire, mais cet objectif aujourd'hui, il est largement dépassé.
Oui, effectivement, il est largement dépassé parce qu'on est aujourd'hui à 36% des montants des marchés pour ces structures-là. Et ça représente 790 millions d'euros, donc qui est une somme quand même très conséquente.
De marchés qui ont donc été attribués à des petites et moyennes entreprises. Mathilde Piquet, c'est vous qui étiez pour RTL à la remise des clés du village des athlètes. Il y avait donc beaucoup de fierté chez les patrons d'entreprises que vous avez rencontrés ce jour-là.
Oui, je pense qu'on peut même parler d'étoiles dans les yeux en attendant l'arrivée des Emmanuel Macron pour la remise très officielle des clés. Je me suis un peu baladée et j'ai croisé Mathieu Gobi, écoutez-le.
Mathieu Gobi, cofondateur d'Aérophile, la société qui a construit des aérofiltres sur le village olympique.
Ils sont juste derrière nous. Est-ce qu'on peut les décrire ?
C'est des grandes ombrières circulaires qui font 5 mètres de diamètre, qui sont posées sur des mâts qui font 4 mètres de haut. C'est des appareils qui vont dépolluer l'air. Très fiers, évidemment. C'est un peu irréel. C'est très propre maintenant, alors qu'on a travaillé dans la boue pendant des mois. L'émotion véritable, c'est quand il va y avoir les athlètes participer à ce grand projet d'accueillir le monde entier ici à l'occasion des Jeux Olympiques.
Mais ce qui est finalement sûrement la plus grande fierté de Mathieu Gobi, c'est l'après-JO. Parce que ce village des athlètes, avec donc ses purificateurs d'air, sera transformé en quartier d'habitation. Ça représente 2800 appartements avec 25 à 40% de logements sociaux. Mathieu Gobi.
Moi, j'ai hâte que les gens de ce quartier s'emparent de ces appareils et de voir comment ils vont vivre dans la vraie vie avec des vrais gens. C'est de toute façon la vocation de cette place d'une façon pérenne, c'est d'être un espace urbain où les gens viennent chiller, comme on dit, passer du bon temps. Et donc, ils vont être à l'ombre, ils vont avoir de l'air dépollué qui va pouvoir profiter à leur santé.
Et là où le vécu de Mathieu Gobi est un peu particulier, c'est que son entreprise compte seulement 100 salariés et qu'il a rivalisé avec de grands groupes de plusieurs milliers d'employés.
On a, on va dire, crânement tenté notre chance. Il y avait des grands groupes qui étaient intéressés par ces applications. Et finalement, d'être une PME ne nous a pas empêchés de gagner cet appel d'offres.
Et sans oublier, bien sûr, Marie, que cette aventure olympique, c'est la fierté d'un patron, mais aussi de tous ses salariés.
Franck Matisse, la fierté, vous la ressentez. Vous aussi, évidemment, on va voir partout vos ouvrages, notamment l'incroyable charpente de la piscine.
Oui, alors, c'était une fierté déjà quand l'entreprise a été choisie pour un certain nombre de marchés. Ça, c'était extrêmement motivant. Et les gens avaient tous en tête que bon, c'était un petit peu leurs Jeux Olympiques à eux. Et donc, il fallait se mobiliser en permanence. Et puis, effectivement, quand tout a été livré, puisque là, on a tout livré, la grande fierté de voir ça dans la presse, les images, et de voir le président de la République qui en a réceptionné, ça, voilà, c'est effectivement, il y a plein de photos, il y a des selfies, enfin, il y a plein de choses qui existent et donc ce sera des souvenirs pour eux et sans doute leurs enfants.
Oui. Et une vitrine pour vous?
Alors, c'est une vitrine des ouvrages, effectivement, comme la piscine olympique, c'est des choses qui est une première mondiale quand même, faut le dire techniquement. Donc ça va forcément inspirer d'autres architectes à travailler sur ces techniques-là.
Quel genre de défi vous avez dû relever, des prouesses techniques, des innovations?
Alors en innovation, si vous voulez, le cadre réglementaire français et puis dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est extrêmement strict. Il y a des habitudes de construction, il y a des règles très édictées. Et dès qu'on veut innover, on sort de ces règles. Et puis il y a des sujets d'assurabilité des ouvrages, etc. Donc c'est très difficile d'innover pour être dans un délai très court. Et c'était bien le sujet des JO, c'est-à-dire l'innovation dans un délai très court. Donc on a dû effectivement faire beaucoup d'essais dans beaucoup d'études, etc., dans des délais extrêmement courts. Et ça, c'était probablement le premier des défis. Et puis derrière, c'était... Alors je vous rappelle qu'à l'époque, on était en plein Covid, on était en guerre d'Ukraine, etc., les matières premières avaient flambé, on ne les trouvait pas, et donc on a mis en place toute une équipe logistique pour chercher nos camions de matières premières dans toute l'Europe et avoir ça en temps et en heure. Et je me rappelle, le patron de la Solidéo nous appelait pour s'assurer qu'on avait bien les camions, qu'on tenait le rythme et qu'on arriverait à finir. Donc il y avait des gros sujets de logistique et d'organisation en général.
Votre entreprise avait déjà, je crois, participé aux JO d'hiver d'Albertville en 92, c'est ça?
Oui, oui. Et moi, j'en avais fait quelques-uns, des chantiers là-bas, donc je me rappelais de ce que c'était, du défi que c'était. Et donc, quand on a choisi de répondre aux différents appels d'offres de la Solideo, on savait ce que ça impliquait, on savait ce qu'il fallait mettre en place, comment il fallait se préparer. On a dû embaucher, par exemple, on a embauché avant de véritablement rentrer dans les travaux, puisqu'il fallait toute l'organisation de l'entreprise devait être revue, renforcée, etc. Et donc on a embauché, on a préfinancé toutes ces embauches pour que le jour J, on soit vraiment prêt. Pour réussir les opérations. Quoi.
Et vous serez candidat pour les JO d'hiver 2030 dans les Alpes, la passe de Troyes?
Oui.
Vous allez surveiller les marchés, du coup?
Bien sûr.
Bon. Mathilde, vous avez d'autres exemples d'entreprises qui ont participé à cette aventure de la construction des sites olympiques?
Exactement, je peux vous donner peut-être trois types d'exemples, parce qu'il y a effectivement beaucoup de petites entreprises qui ont participé à ces chantiers. D'abord, le secteur des constructions bois. Il y a par exemple le ponton du village olympique qui a été construit par une entreprise à Saint-Malo qui s'appelle ECMB. Il y a aussi l'entreprise Pifto en Vendée ou Atelier Synapse en Seine-Saint-Denis. Donc ça c'est pour les constructions bois. Il y a aussi des entreprises spécialisées dans la réutilisation des eaux usées. C'est le cas d'une entreprise dans l'Hérault qui s'appelle Neurus. Et puis il y a aussi beaucoup d'entreprises d'horticulture parce qu'il faut bien habiller un petit peu tous ces chantiers olympiques. Par exemple, dans le Loir-et-Cher, l'entreprise Prieuré Végétal. Et puis enfin, il y a le côté organisation avec les épreuves qui là est plutôt gérée par la structure vraiment de Paris 2024. Ça représente 1500 TPE-PME qui ont là aussi participé et qui vont participer à ces Jeux Olympiques. Je peux vous donner l'exemple d'une petite entreprise nantaise qui s'appelle Sportcom qui a fourni tous les équipements de boxe pour les épreuves cet été.
Et parfois, les entreprises sont vraiment toutes petites. Elles ont besoin de se regrouper, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Julie Fournier, pour pouvoir être un peu plus fort, hein, pour concourir et obtenir des marchés. Vous avez une histoire de ce genre à nous raconter, Mathilde?
Oui, celle d'Okinéa. C'est une petite structure qui rassemble 8 PME. Elles se sont regroupées pour candidater à un marché olympique. Donc, elles ont fourni en fait tout le parcours de signalétique inclusive du village des athlètes. C'est par exemple avoir des panneaux plus colorés pour les personnes malvoyantes ou encore rendre accessible l'information aux personnes qui ne pratiquent pas l'alphabet latin, parce que quand on organise des Jeux Olympiques, c'est le cas. Sandra Bossard est représentante de ces 8 PME. Elle nous explique pourquoi il était important de candidater à plusieurs.
Le fait de nous regrouper nous a permis de mutualiser nos ressources et finalement tirer le meilleur de ce que nous avions, nous, chacun, comme spécialité.
Ça montre que des petites entreprises, quand elles se regroupent, peuvent remporter des marchés où il y a aussi en concurrence de plus grosses entreprises.
Absolument. Sauf que l'intérêt, finalement, c'est d'apporter cette diversité d'expertise que nous n'aurions pas si nous avions été peut-être qu'un seul groupe spécialiste, voyez.
Et ces 8 entreprises ne sont pas les seules à s'être regroupées. En Ile-de-France, par exemple, 6 pépiniéristes ont aussi uni leurs forces pour fournir les espaces verts du village des athlètes et du village des médias. Ça représente quand même plus de 16 000 arbustes et 71 000 plantes.
Julie Fournier, pour certaines entreprises, quasiment toutes d'ailleurs, il y avait des défis à relever dans ces constructions d'infrastructures. Un enjeu environnemental, un enjeu social. C'était quoi tous ces enjeux?
Alors effectivement, à la Solideo, on a eu beaucoup d'ambition liée à cette candidature au jeu qui se voulait vraiment une première en termes de sobriété. Donc en fait, tous les marchés reflètent la stratégie d'excellence environnementale de la Solideo qui repose d'une part sur tout ce qui est construction bas carbone. On a beaucoup parlé notamment avec les constructions en bois, mais également tout ce qui est résilience au changement climatique qui est un vrai sujet pour la ville de demain. Et enfin, vous en avez aussi parlé sur la biodiversité, donc le fait de ramener cette biodiversité en ville. Donc tous ces principes, ils ont vraiment percolé dans l'ensemble de nos marchés et pour l'ensemble de nos entreprises. Et les PME ont porté des solutions qui étaient assez innovantes pour répondre à nos problématiques.
Allez, on va prendre encore un exemple. Les sièges sur lesquels les spectateurs vont s'asseoir, par exemple à l'Adidas Arena de la Porte de la Chapelle, eh bien, ils sont fabriqués en plastique recyclé. Ça aussi, hein, ça faisait partie de certains cahiers des charges, réutiliser des matières. Vous êtes allé hein, chercher l'entreprise, à la Solideo, le pavé basé à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. C'est une entreprise locale. Et Mathilde, vous y êtes allé, vous avez vu les responsables de cette entreprise. C'était vraiment une opportunité incroyable, Paris 2024 pour
Exactement,
eux.
Exactement, ça a complètement changé et bouleversé la structure de l'entreprise. J'ai été leur rendre visite dans leur site historique d'Aubervilliers, un grand hangar d'où sont sortis 11 000 sièges donc pour les JO, un accélérateur complètement inattendu.
Lucas, Philippe Honneau, Chief of Staff chez Le Pavé. Ce projet-là, on est venu nous voir en 2019 et l'entreprise en fait existait depuis quelques mois. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, nos plaques, on n'était pas en mesure de les transformer en sièges de gradins. Au niveau de la structure, c'est quasiment 20 recrutements en total.
Exactement.
Donc ici, on est dans la première usine, Le Pavé. La matière chez nous, elle arrive dans ces grands big bags et elle ressemble à ces petits granulés-là. Cette matière-là, on va la charger dans nos stylos. Là, on va composer notre recette en venant s'appuyer sur d'autres matières pour aller créer l'esthétique finale du panneau.
Qu'est-ce qu'on fait là ?
Là, c'est la machine qui va donner l'aspect final au panneau avec un aspect relativement lisse.
Les sièges des JO, ils seront lisses et sans accro, quoi.
Les sièges des JO, ils sont lisses et sans accro, à la petite variante près qu'on nous a demandé justement, une petite texture. Au niveau de l'organisation interne, une grosse étape, ça a été le passage en 3-8. 3-8, ça veut dire travailler 24 heures sur 24, de 6h à 14h, de 14h à 22h, puis de 22h à 6h. Et ça a derrière pu enchaîner sur des projets qui hier nous paraissaient insurmontables et qui aujourd'hui sont devenus la norme. Et
le marché olympique représente aujourd'hui un tiers de l'activité de l'entreprise, Lucas Filippono.
C'est de la visibilité sur le long terme. Et ça, quand on lance une start-up, c'est une vraie chance, parce qu'un entrepreneur s'est habitué à voir à 6 mois. Nous, on savait qu'il y a ce projet-là qui nous attendait 4 ans plus tard. Mais en fait, ça va avec aussi de la crédibilité. Quand on a des nouvelles opportunités, on dit, en tout cas, les gens voient, ils ont été suivis par les JO, donc c'est une entreprise qui fait le travail, quoi.
Et le projet olympique a même permis à cette petite entreprise, qui venait à peine de se créer au moment de la sortie des marchés olympiques, d'ouvrir une deuxième usine en Bourgogne.
Franck Matisse, c'est un booster de commandes, les JO, vous avez aussi, vous, pu après obtenir d'autres marchés?
Oui, parce qu'en fait, ça donne de la notoriété, les gens visitent les chantiers, la presse professionnelle en fait état et forcément ça inspire et puis ça rassure beaucoup. En plus, on a eu la chance d'avoir la visite du président de la République dans l'usine. Donc tout ça, ça a donné de la visibilité et effectivement, c'est plutôt un booster. Mais avant d'être boosté, il faut d'abord réussir ce qu'on entreprend. Mais ça, on avait fait tout ce qu'il fallait pour le faire.
Après toutes ces années consacrées au JO, on ressent quoi ? Il y a un petit moment de vide quand même avant de se relancer. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, dans la vie d'un entrepreneur, il n'y a jamais de moment vide, c'est la règle. Et s'il y en a un, c'est inquiétant. Donc, on est une industrie de projet, donc il y a toujours un projet derrière, des choses, notamment à l'export ou d'autres projets techniques en France, chez des grands maîtres d'ouvrage. Public ou privé, donc il n'y a pas de blues.
Oui, c'est ça, le blues, c'est le mot que j'aurais dû employer, parce qu'après une grande émotion, parfois on a un petit coup de blues. Mais non, voilà, ça vous a permis d'être sur une lancée.
On est dans une dynamique, oui, on est dans une dynamique.
Julie Fournier, on parlait hein, de ces petites et moyennes entreprises, donc cette dynamique économique, mais la Solideo avait aussi pour ambition sur les chantiers des JO de faire intervenir ce qu'on appelle des ESS, structures de l'économie sociale et solidaire, pour des heures d'insertion pour des publics éloignés de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, ces heures d'insertion ?
Bah, effectivement, en fait, dans notre charte, non seulement il y avait les retombées économiques sur les entreprises, mais il y avait aussi et surtout la question de l'emploi. Et donc, ce qui était important pour nous, c'était de favoriser l'emploi local au plus près des chantiers pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, c'est ces personnes-là qu'on appelle des personnes en insertion. Donc, ça peut être des demandeurs d'emploi de longue durée, ça peut être des jeunes qui n'ont pas de qualification, ça peut être des personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires. Et donc, l'idée, c'est de leur donner un coup de pouce, un premier job, pour pouvoir ensuite enchaîner sur leur vie de travail. Et donc, dans notre charte, était inscrit un objectif de 10% des heures travaillées réservées aux personnes en insertion.
Ça fait combien
Alors, ça fait 2 400 000 heures pour la Solideo comme objectif. Et en fait, c'est un objectif qu'on a déjà dépassé aujourd'hui parce qu'on est déjà à 2 800 000 heures. Et donc, ça représente plus de 4 000 personnes.
qui ont été accompagnés et qui ont pu aller travailler sur les chantiers.
Exactement.
Est-ce qu'on sait si ça a déjà conduit à des emplois pérennes, ce genre d'heures d'insertion?
Alors, on a déjà effectivement des belles histoires. Par contre, aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour faire le bilan. Un parcours d'insertion pour une personne, c'est long, ça dure 2 ans. Et donc, voilà, il faut ensuite qu'elles arrivent à transformer l'essai pour trouver un CDI. Et donc, on fera ce bilan dans quelques mois.
Merci beaucoup, Julie Fournier, chef de projet à la Solideo. Franck Matisse, patron de Matisse Construction Bois, merci de votre participation à ce podcast. Merci Mathilde Piquet, du service économie sociale Transition écologique d'RTL. Donc, ce podcast intitulé « Tout savoir sur ces petites et moyennes entreprises françaises dopées à la dynamique économique olympique ». Merci à Pierre Nabé pour la réalisation. Et tous les podcasts d'RTL sont disponibles, bien sûr, sur le site internet rtl.fr, sur l'appli RTL et toutes vos plateformes d'écoute préférées.